Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
C'est un projet qui s'appelle L'autre et soi, initié par l'écrivaine Marie Desplechin et le Théâtre du Nord à Lille, avec des élèves du lycée Jean Moulin de Roubaix. Voilà pour le cadre. La restitution en public a eu lieu le 23 mars au Dit Théâtre. 14 élèves sont montés sur scène et ont raconté une histoire. Voilà pour les faits. Mais ça, c'est comme on dit, la partie émergée de l'iceberg, car en réalité, l'expérience dure depuis le mois d'octobre 2018, le jour où Marie Desplechin a présenté son idée aux élèves. Voilà comment elle l'a décrite dans un texte qu'elle a lu sur scène, elle aussi. Un jour, Inès m'a prise à part pour me faire un reproche. « Madame, quand vous avez présenté le projet, vous avez fait peur à tout le monde. » On a cru qu'il faudrait juste écrire un texte et aller le dire devant le public. Je l'ai regardé avec perplexité. Ce que j'avais présenté au début du mois d'octobre n'était rien d'autre que ce que nous avions finalement achevé fin mars, écrire un texte et le présenter sur une scène. Ce qu'il fallait dire, a ajouté Inès, c'est qu'on ferait un groupe et qu'on s'entendrait tellement bien. Elle avait raison. Je n'avais rien promis sur le bonheur qu'on peut avoir à travailler ensemble, à s'encourager et à se soutenir, à apporter sa part à un projet commun. Mais ils ne m'auraient pas cru. De plus, je ne pouvais rien promettre. Ce groupe, ils en étaient responsables, ils l'avaient fabriqué et ils l'avaient fait vivre. C'était leur œuvre. Plus tard, nous étions au théâtre, poursuit Marie Desplechin, et Mougerat m'a confié. C'est le seul endroit où l'on peut dire ce que l'on a à dire sans que tout le monde vous interrompe sans cesse. C'était une définition possible du théâtre. Alors, parmi les 14 élèves de Jean Moulin à Roubaix qui sont restés, nous en avons rencontré et enregistré certains entre deux répétitions. Ils nous ont raconté l'histoire qu'ils allaient raconter sur le thème « L'autre et soi, pas facile d'être un ado ».
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Je m'appelle Mélissa Benelakam, j'ai 18 ans. Je suis en terminale en bac pro accueil, en relations clients et usagers. Et j'aimerais bien être gendarme. Depuis que je suis toute petite, j'aimais bien tout ce qui était police, etc. Porter l'uniforme. Et d'être là pour la sécurité du peuple, on va dire, de la France. Donc mon histoire s'est passée au collège, j'étais en 6e, et j'ai subi beaucoup de moqueries par rapport à 3 garçons. Il y a un premier garçon qui rigolait de moi par rapport à mon physique, que j'étais un peu garçon manqué, j'étais un peu grosse aussi. Il rigolait de mon nez, il me comparait à un joueur de foot. T'as le nez de Zlatan, t'es moche, on dirait un homme, tous des trucs comme ça, quoi. Ensuite, il y a un deuxième qui rigolait aussi par rapport à mes grains de beauté, etc. Tes grains de beauté ont tiré des chocs à pic, après des moqueries d'enfants du collège. Et un troisième que malheureusement je le trouvais beau. Et il rigolait aussi, mais il était un peu plus gentil au début. Donc il faisait des moqueries sur moi, tout le monde rigolait de moi dans les couloirs. Et les profs, ils rigolaient avec eux. Tous les jours, c'était. Pendant 3 ans, j'ai subi des moqueries sur moi. Entre la 6e et la 4e. Tous les jours en cours, ils rigolaient de moi en sport. Il n'y avait jamais un moment où j'étais tranquille, même à la récréation. Je pleurais souvent dans les couloirs. Je gardais toujours la tête baissée. Quand je rentrais chez moi, je mangeais presque plus. Je voulais plus aller à l'école, je voulais plus faire mes devoirs. Et ma mère, elle le voyait pas parce que je lui cachais vraiment beaucoup de choses. J'en parlais à personne. J'avais peur qu'il me faisait des menaces je le répétais à quelqu'un. De me frapper, de me faire des réputations. Avec tous les problèmes qu'il y a eu, j'en avais eu marre et j'ai pris des cachets et je me suis endormie. C'était tard le soir, j'ai été prendre plein de cachets, mais c'était tout ce qui se passe fond, donc je pense que j'allais pas mourir avec ça. Donc je me suis réveillée du lendemain matin et j'ai dit que c'était idiot de ma part, parce que j'aurais pu laisser ma vie quand même. Et ça, c'est quelque chose que j'ai jamais dit ni à ma mère. Voilà. Il y en avait un des 3 que je trouvais beau. Il faisait semblant d'être gentil avec moi, donc moi j'y ai cru. Et un jour, je lui ai demandé de sortir avec lui. Je lui ai envoyé un message sur Facebook. « Veux-tu sortir avec moi ?» Et il m'a dit « Tu as vraiment cru que j'allais sortir avec une fille comme toi ? Tu as le nez de Zlatan, tes grains de beauté, on dirait des chocs à pic, tu es horrible. » Et il a commencé à montrer les messages à tout le monde. Et ce jour-là, il y a l'un des trois garçons qui me traitait par rapport à mon physique. Il a pris une photo de moi de profil, il l'a imprimé, il l'a placardé sur tous les murs du collège. Et je suis sortie des cours, j'ai vu tout le monde rigoler de moi avec ma tête dans leurs mains. Donc je les ai arrachés de partout, je suis partie en courant. Et malheureusement, il n'y a aucun surveillant qui l'a vu. Donc je suis sortie des cours et j'ai commencé à me prendre vraiment la tête avec eux. Et il m'a fait des menaces de me frapper à la sortie, donc j'ai appelé mes trois cousines. Donc ils ont attendu les trois garçons à la sortie. Ils ont attrapé le garçon qui a fait ça, donc ils lui ont fait peur. Mais le souci, c'est que la principale, elle a vu ma cousine agresser l'élève. Donc j'ai été convoquée avec ma mère. Donc ma mère, elle comprenait pas pourquoi. Donc je lui explique que ce jeune homme, il voulait me frapper et que j'ai affronté 3 ans de souffrance et j'ai dû payer les conséquences alors que j'avais rien fait du tout. J'étais victime d'harcèlement. La principale, elle m'a dit d'écrire mes témoignages et ils ont été convoqués et ils ont passé un sale quart d'heure parce qu'ils ont été vraiment punis, ils ont été virés au moins quelques jours quand même. Et l'un des parents, ils sont venus s'excuser auprès de ma mère et moi. Donc maintenant, quand ils me voient dans la rue, ils baissent la tête. J'en ai croisé un dernièrement et il y a vraiment dit « Ah, t'as changé, t'as embelli, comment ça c'est que t'es devenue plus féminine ?» Mais j'ai dit « Toi, je sais pas t'es qui, viens pas me parler quoi. Franchement, pars de ma vie. »
Et si un jour t'es gendarme et que tu les vois en train de faire une bêtise, tu vas faire quoi ?
Ah mais je les fous dans le cajot là. Je les mets en prison direct. Hein. Non, non, c'est sûr que je dirais quelque chose. Hein. Ils vont être choqués de me revoir en tant que gendarme. Donc, ça serait marrant, surtout.
Je m'appelle Martin Dassonville, j'ai 17 ans, je suis en première au lycée Jean Moulin. Plus tard, j'aimerais travailler dans la police cynophile, c'est-à-dire avec les chiens, parce que j'aime beaucoup les animaux. J'ai envie d'aider les autres et aussi un peu servir mon pays quand même. Moi, je suis là juste pour essayer d'être quelqu'un de bien, de faire une nouvelle image de la police, essayer de peut-être avoir de nouveau. Surtout là, avec les gilets jaunes qui se passent, quand on voit la police, et on pense arrestation, manifestation, tous les trucs comme ça. Donc quelque chose de plus positif, une image plus positive de la police. Alors mon histoire s'est passée il y a 6 mois, il me semble. C'était en septembre, en tout début d'année. Alors j'étais en cours de sport avec toute ma classe. On faisait du demi-fond, c'est de la course. Autour d'un terrain de basket. En fait, c'est un terrain de basket qui est à côté du lycée, un peu plus loin, vers la ville. Donc il y avait un prof de sport, etc. C'était encadré. Rien de plus normal. On était un mardi, il faisait beau, le soleil brillait, il faisait chaud, c'était bien. On courait, tout se passait bien. Et il y a eu 4 policiers qui sont venus dans le terrain. Et ce terrain de basket, on ne savait pas, mais c'est un terrain où il y a de la vente de drogue. Donc ils étaient venus pour chercher de la drogue. Et donc moi, je suis dans une section MS, une section sécurité. Du coup, on voit des policiers, on veut faire ça plus tard, c'est nos exemples. Dans notre section, il faut être assidu, respectueux, donc on voit policiers, pompiers, agents de sécurité, on doit les saluer à chaque fois. Donc on les salue une première fois. Bonjour, ils ne nous répondent pas. On se dit peut-être qu'ils n'ont pas entendu, on les salue une deuxième fois, ils ne répondent toujours pas. Une troisième fois, jusqu'à un moment où ils nous ont répondu très sèchement, méchamment, avec beaucoup d'insultes, comme fils de pute, nique ta race, tout ça. Donc on n'a pas trop compris. Les policiers nous auraient peut-être pris pour des dealers. Peut-être qu'ils ont cru qu'on se moquait d'eux, donc on était assez étonnés, mais on a décidé de passer outre. On a continué à courir. Et j'ai vu un de mes amis qui était entouré des policiers. Je me suis avancé en marchant pour voir ce qui se passait. Et j'ai vu qu'ils lui ont fait une balayette, enfin ils lui ont donné un coup de pied, il est tombé par terre. Apparemment c'est parce qu'il aurait peut-être répondu à un truc, déplacé. En gros, il aurait dit à un de mes amis « Ah, les bâtards, ils t'ont pas répondu. » Parce qu'on leur disait bonjour et tout. Voilà, et c'est comme ça que ça serait parti. J'ai couru vers eux, j'aurais dit « Arrêtez, arrêtez. » Ils ont sorti leur matraque télescopique. Il y en a 2 qui m'ont couru après avec la matraque télescopique. Et quand j'ai vu mon prof de sport arriver, pour savoir ce qui se passait, il était étonné. Je me suis dit qu'il n'allait pas me mettre un coup de matraque devant mon prof. Donc j'ai arrêté de courir. Sauf que je ne l'ai pas vu, mais il y en a un derrière moi qui m'a donné un coup dans le genou. Je suis tombé au sol. Il m'a fait une maîtrise. En gros, il m'a tenu les mains et les jambes. Je ne pouvais plus bouger. Et l'autre, il me donnait des coups de pied dans la tête. Je pissais le sang. J'avais la lèvre ouverte. Ils ont des grosses bottes. Ils ont des rangers quand même. Quand tu te prends un coup de ça. En plus, ils sont coquetés. Il y a du métal au bout. Donc quand tu te prends ça en pleine face, ça fait des dégâts. Il y avait mon prof de sport et il faisait rien. Donc je n'ai pas trop compris. Enfin bref, il m'a relevé. J'ai sonné. Je savais même plus où j'étais. Il m'a emmené vers un fourgon de police. Il m'a mis dedans. Il est entré dans le fourgon, il a fermé la porte. Il m'a tabassé, il m'a donné des coups de pied, des coups de poing, tout. Il me traitait de bougnoule, que j'étais pas chez moi ici, que j'étais pas un français, alors que je suis français. Et en fait, j'ai eu super peur pour ma vie. J'ai vraiment cru qu'il allait me tuer. Parce que je me suis dit, il y a rien qui l'en empêche. Il peut sortir un truc, me tuer maintenant. Donc j'ai paniqué et genre je me suis dit, comment sortir de là? Et j'ai dit, ouais, mon père, il est policier, hein. Donc du coup, il a fait « Ah !» Il a arrêté de me taper, il m'a remis droit. Il m'a dit « Ah bon, ton père, il est dans quelle section ?» Tout ça. J'ai inventé tout ce qui passait par l'esprit. Mes grands-parents habitent à Villeneuve-d'Ascq. Du coup, j'ai dit « Ouais, ils travaillent à Villeneuve-d'Ascq. » Ah, d'accord. Du coup, ils nous ont ramenés au lycée, parce qu'on était quand même en cours. Ils sont obligés de nous ramener au lycée. Et moi, j'ai pété un plomb et je suis allé voir les autres policiers. Je dis « Ouais, vous savez que votre collègue est raciste ?» Il me dit « Non, il est pas raciste, c'est pas vrai, tu dis n'importe quoi et tout. » Et j'étais super énervé, du coup je l'insultais de gros moche. Ils m'ont dit « Ah, tu le traites de gros moche, on va t'emmener en garde à vue pour ça alors. » Mon lycée est en partenariat avec la police. Ils n'avaient pas trop le droit de me donner raison, même s'ils voulaient. Je suis resté 24 heures en garde à vue. C'est une salle, à peine plus grande que ma chambre, 12 mètres carrés. On a un banc en béton tout dur, froid. C'est horrible, il n'y a même pas de chauffage. Quand je suis arrivé là-dedans, j'avais la haine. J'ai pensé à ma mère. Elle va voir que je rentre pas, que je lui téléphone pas, elle va super s'inquiéter. J'avais mal au cœur pour ma mère. Et donc j'ai demandé à ce qu'on l'appelle, il était 19h. Donc normalement, à 18h, je suis à la maison. Je dis, ouais, est-ce qu'on peut les contacter, s'il vous plaît? Non, c'est pas toi qui décide, on les contactera demain matin s'il faut. Bref, j'ai essayé de dormir, mais c'est impossible parce que c'est comme si on dormait par terre avec juste une couverture de survie. C'est même pas une couverture. J'avais de la chance parce que j'avais un carreau à ma cellule. Je voyais le soleil et la nuit. J'ai pensé à plein de trucs. J'ai essayé de me faire rire moi-même. J'ai essayé de me raconter des blagues nulles comme Toto et tout parce que c'est un peu monotone. En plus, sur les murs, les gens qui sont là, ils gravent leur nom. Donc il y avait des trucs comme Jean-Pierre, 96 heures, 4 jours, waouh. Moi j'avais fait le calcul dans ma tête, je m'étais dit 24 heures, c'est 1440 minutes, énorme. Après il y a aussi des gens qui arrivent là à 2h du matin, qui sont totalement fous, ils se tapent contre les murs, ils crient. Alors, toi t'essayes de dormir sur un banc en béton froid, t'entends des gens qui crient, t'entends la police qui fait « tais-toi », fait « non, je me tais pas ». C'était n'importe quoi, c'était la foire, c'était un zoo. Moi, je me suis senti comme un animal en cage. Quand on a crié mon nom, j'ai bondi comme l'animal sauvage à la porte pour voir qu'est-ce qui se passait, quoi. Et surtout que j'ai pas eu d'eau pendant 24 heures. Je me suis demandé quand est-ce que j'allais boire. Et j'ai eu des pâtes froides avec des champignons. Une petite barquette à réchauffer, là. Je déteste les pâtes et je déteste les champignons. J'ai tout mangé, j'en ai même repris. Parce que même j'ai gratté la sauce jusqu'au bout. Hein. C'est la survie, là-bas. Et pour ceux qui partent en prison, je sais pas combien de temps, peut-être qu'ils l'ont mérité, mais c'est dur quand même. Voilà. On m'a refait sortir pour que je fasse mes empreintes, les photos, avec la pancarte comme dans les films américains. Donc ça me faisait un petit peu rire, ça. Et puis j'ai rencontré un jeune de la police qui, lui, m'a donné à manger, il était très gentil avec moi. Au bout d'un moment, on m'a appelé. On m'a dit « Ouais, Martin Dassonville, tu sors ?» Je suis sorti. On m'a dit « Ouais, tu vas voir ton père. » Je me suis dit « Il va me tuer ?» Je suis arrivé, il y avait une porte. Je ne voulais pas la passer, la porte. J'ai ouvert la porte et j'ai vu mon père. Et en fait, il ne m'a pas tué, il m'a regardé, il était soulagé. Mon père, c'est pas quelqu'un d'expressif. Et il m'a fait un grand câlin. Il était heureux de me revoir et tout. Il m'a dit que c'était pas de ma faute. J'étais choqué de sa réaction. Il m'a même pas puni, il m'a pas engueulé. Il m'a juste demandé des explications. Alors j'étais soulagé de voir mon père me comprenait. Surtout que mon père, il m'a dit peut-être une fois dans ma vie qu'il m'aimait. Et quand il fait des actions comme ça, voilà, ça me donne chaud au cœur. J'avais pleuré dans ses bras, mais bon, j'ai pas pleuré. Ma mère, elle était soulagée de me revoir, elle a pleuré, toutes les larmes de son corps. Mes frères, ils étaient contents de me revoir, mais moi, j'étais content. Mais bon, j'ai quand même passé devant un magistrat. Du coup, là, à l'heure actuelle, j'ai 3 ans de sursis. Si je casse le sursis, je vais 3 mois en prison et je paye 7 500 € d'amende. Donc il faut que je sois à carreau pendant 3 ans. Ça paraît fou, on dirait que je mens, hein. Mais c'est vraiment ce qui s'est passé. Et dans les dépositions, il est juste écrit « Vous devez vous présenter pour le motif suivant, outrage à agent, donc gros moche. » C'est tout, il n'y a même pas une insulte ou quoi. Je savais pas que c'était ça la police, enfin, c'est pas ça. Mais voilà, je pense qu'il faut pas juger trop vite. Parce qu'il y avait un officier qui était super gentil avec moi. Donc c'est pas parce que quelques individus stupides font du tort qu'il faut en vouloir à toute une communauté.
Tu veux toujours être policier ?
Bien sûr. Ça me motive encore plus même. J'ai envie de me dire que je serais mieux qu'eux et que jamais je ferais ça. Mais ils m'ont dit, bah, t'y arriveras jamais vu que t'as un casier maintenant. Donc c'est super handicapant pour ma filière parce que je fais un bac dans la filière sécurité. Si j'ai pas un casier vierge, je suis pas inscrit, pas de bac, je suis dans la filière pour rien. Enfin bon, on en est là maintenant.
Je m'appelle Moujra Ozen, j'ai 20 ans, je suis en terminale gestion administration, j'aimerais devenir infirmière. Mon histoire, c'était il y a 2 ans. Ça se passe au collège Sainte-Marie, à Roubaix, j'avais 16 ans. En fait, je faisais 130 kilos pour 1m75 et j'étais la plus grosse du collège. Moi, mon kiff, c'est le chocolat, les chips, et je mangeais 2 sandwichs. Les gens, ils en prennent un, moi j'en prenais 2 à chaque fois. On se moquait de moi, enfin, sur mon physique. Voilà, enfin, on me disait, je sais pas, la femme à Shrek, parce que j'étais la plus grosse du collège. Moi, personnellement, ça me dérangeait pas. Juste que je tombe amoureuse d'un garçon. Mais il l'a remarqué et c'est ce jour-là qu'il a voulu jouer avec moi et il m'a humiliée devant tout le monde. Ça s'est passé quand on était dans une course contre la faim dans le monde. On court pour les gens qui n'ont pas de nourriture. À chaque tour que je faisais, eh ben, on me donnait, admettons, 5 €. Donc, moi, même si j'étais grosse, j'aimais faire du sport, quoi. J'aimais courir. En plus, c'était aider les gens, tout ça. Moi, ça me dérangeait pas. À la fin de la course, il m'a demandé de venir vers lui. J'étais le voir. Et il m'a poussée, mais sans aucune raison, quoi. Il m'a poussée. Je suis tombée de toute ma hauteur et je me suis cassée le bras. Et quand je suis tombée, il a commencé à crier devant tout le monde, baleine échouée. Et vu qu'il y avait tout rassemblement du collège, ils se sont tous mis autour de moi alors que j'étais à terre. Je pleurais et ils étaient tous en train de rigoler et de crier « baleine échouée » tous ensemble. Ça m'a bouleversée. Quand ils ont tous commencé à crier comme ça, les professeurs tous ils ont commencé à intervenir. Il y a les ambulanciers qui sont venus, tout ça. Et du coup, je suis tombée en dépression. Du jour au lendemain, j'ai tout arrêté de manger. Après, j'allais voir sur Internet combien de temps on peut tenir sans manger. Et c'était écrit 10 jours sans manger. Moi, j'ai tenu 1 mois. Je mangeais une pomme par jour. J'avais arrêté de manger, mais moi, ça ne me dérangeait pas. Parce que je me disais que j'ai toujours de la graisse en stock. Je peux vivre sans manger, moi, personnellement. Je me disais ça. Je commençais à courir et j'avais pris la confiance, quoi. J'ai commencé à faire des Roubaix-Lille. Je courais Roubaix-Lille. Mais quand je courais Roubaix-Lille, eh ben, y a des gens dans la rue qui me disaient un ogre qui court, tremblement de terre. Après, j'avais mes écouteurs, je ne les calculais pas. Au bout d'un mois, je me suis retrouvée à l'hôpital. Parce que je me suis écroulée dans la rue, parce que j'avais plus de vitamines dans le corps, j'avais rien mangé et je courais. Et du coup, ben, j'avais perdu 18 kilos.
Tes parents ne sont pas aperçus que tu avais perdu 18 kilos ?
Si, mais ils étaient très fiers de moi parce qu'ils croyaient que je faisais que du sport et je ne mangeais pas avec eux. Donc, je suis restée hospitalisée une semaine. Mes parents, ils me ramenaient du chocolat. Moi, je refusais strictement de manger. Pour moi, c'était horrible. Manger, ce n'était pas possible. Et on m'a mis une perfusion, enfin voilà quoi, pour mettre les vitamines, tout ça. Ensuite, ils m'ont dit, tu peux pas continuer comme ça, de toute façon, tu vas reprendre le double quand tu vas commencer à manger. Moi, j'étais dans le délire, si je mange, je vais grossir, à ce moment-là, je mange pas. Ensuite, je suis sortie de l'hôpital. Lendemain, j'étais épuisée, mais pour moi, je me suis dit, bon, on m'a mis des vitamines, c'est que je peux continuer le sport. Je continue le sport, je commence à courir. Je suis passée à une demi-pomme par jour et je me faisais des cocktails. Je mettais du gingembre, du citron et je buvais un demi-litre de ce cocktail-là et 2 litres d'eau. Je buvais ça. Pour remplir mon estomac, je buvais tout simplement. Et c'est comme ça que j'ai encore perdu du poids. Avec le sport, je perdais, j'avais mal partout. Je courais dans la rue, je pleurais. Mais je devais tenir le coup. Au début du lycée, quand je suis rentrée dans la classe, ils ont commencé à se moquer de moi. Et cette classe-là, ben, ça m'a encore plus bouleversée. Parce que je me suis dit, ils se moquent de mon physique, encore une fois. Parce qu'ils étaient très minces. Et je me suis dit, il faut que je perde encore. Être vraiment mince comme toutes les autres filles. J'avais 17 ans. J'ai forcé le sport, je me suis donné à fond. Tous les matins, avant d'aller en cours et après les cours, je courais également. Et je faisais quoi, 2-3 fois par semaine Roubaix-Lille en courant. J'ai continué à nouveau mon cocktail, voilà, avec de l'eau et une pomme. Ensuite, au bout de 3 mois, je suis tombée à 103 kilos. J'aimais bien que mon estomac était vide, je me sentais libre. Quand je voyais de la nourriture ou que je sentais de la nourriture, ça m'écœurait. Et je faisais que courir. Et j'ai continué à perdre, à baisser encore et encore. Et ensuite, à 80 kilos, mes parents m'ont interdit le sport. Ben, moi, ça m'a rendu dingue. Je courais en cachette. Je n'arrivais plus à maigrir. J'étais épuisée. Et c'est là que j'ai commencé la boulimie. Je craquais, mais c'était vraiment que au niveau du chocolat. Je craquais, je mangeais, mais je me disais dans ma tête, tu vas prendre du poids. Et du coup, j'allais vomir. Et ça me soulageait. Et ensuite, j'ai commencé à prendre du poids. Parce que vomir ne servait à rien et ça m'a détruit mon estomac. Et en plus de ça, quand je faisais de la boulimie, je sentais que ma vue diminuait, que j'avais des mal de tête tout le temps. Et je faisais des malaises aussi. Parce que tu perds beaucoup de vitamines quand tu vomis. Et du coup, à cause de mes malaises, je me suis retrouvée à l'hôpital. Ensuite, le médecin il m'a dit, tu continues comme ça et dans 2 semaines, tu es morte. J'ai pleuré et j'ai arrêté d'aller le voir. Les autres médecins me disaient, tu n'as plus de fer, tu ne pourras pas tenir, tout ça. Et il y a un médecin, un grand médecin qui m'avait dit, tu peux faire un arrêt cardiaque à tout moment, tu peux mourir. Je ne l'ai pas écouté, j'ai dit non, vous mentez, je n'ai pas mangé pendant 6 mois, je suis toujours présente, ce n'est pas maintenant que je vais mourir. Il m'a dit, il ne te reste plus rien. Et pour cela, j'ai arrêté d'aller le voir. Et quand la dernière fois que je suis tombée, ben, je n'ai pas été à l'hôpital parce que j'ai dit qu'ils racontaient n'importe quoi. Mais en fait, ils avaient raison. Mais moi, comme j'étais en dépression, En plus de ça, j'avais mal partout, je me sentais vraiment pas bien. J'allais en cours, mais j'étais tellement épuisée, tellement fatiguée que j'ai pas pu tenir. J'ai raté 2 ans de scolarité. Et ça, certains profs n'ont pas compris pour quelle raison, mais ils savaient pas c'était quoi la maladie la psychiatrie. Quand je suis arrivée à 76 kilos, ben je repensais à ce garçon-là. Le garçon, au début où j'étais amoureuse, je l'ai recontacté sur les réseaux sociaux. Je ne lui ai pas dit que j'étais mince. Il a accepté de me voir car je lui ai dit que j'avais un bracelet à lui rendre car je lui avais pris son bracelet. Et ensuite, il m'a dit « Ok, ramène-le-moi ». Et quand j'ai été le voir, j'étais fine, j'étais musclée. Vu que j'allais à la salle, je m'étais maquillée, j'avais fait mes cheveux, j'avais plus de boutons sur la figure, enfin voilà. Je sais pas si j'approuvais de l'amour encore ou de la haine envers lui, avec tout ce qu'il m'a fait. J'ai été le voir. Il m'a vu arriver au loin. Au début, il m'a pas reconnue. Et plus je m'approchais de lui, plus il voyait qui j'étais. Et ensuite, il a commencé à avoir des larmes aux yeux. Elles ont coulé. Et il m'expliqua à quel point il était désolé que c'était un gamin. Mais je ne l'écoutais pas. Et ensuite, il s'est approché de moi. Il a ouvert ses bras pour me faire un câlin, mais je l'ai repoussé. Je n'ai pas accepté. Et c'est à ce moment-là que je me suis aperçue que c'était de la haine que j'avais envers lui. Et je lui ai reproché que c'était à cause de lui que j'étais tombée malade et qu'il s'en rappellera toute sa vie. Prendre une vengeance, c'est bon en fait. Ouais.
C'était L'autre et soi, un atelier orchestré par Marie Desplechin, une émission de radio réalisée par Emmanuel Geoffroy. N'hésitez pas à vous précipiter sur le site des Pieds sur Terre pour voir les magnifiques petits films sur ces jeunes gens réalisés par la cinéaste Alice Diop qui nous les a gentiment prêtés. Merci d'ailleurs à Sarah Blum, à Clément Aline pour ces vidéos. Merci également à Moujra, bien sûr, à Mélissa et à Martin, à Jason, à Anissa, à Selima, à Kider, à Nadir, à Inès, à Mélissa, à H, à Yasmine, à Owen et à Amir Hossein. Merci également à Ahmed de Bourala et à Malika Barki, à Simon Gosselin et à Céline Ilbiche, ainsi qu'à Anne-Marie Peigné du Théâtre du Nord, sans oublier Bastien Dietmann. C'est Jeanne Delecroix, l'attachée de production des Pieds sur Terre, et c'est Zoé Marie Roulier, notre stagiaire.